Bonsoir. Élection hier mercredi du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jeannine Mabunda a été élue à la présidence de ce bureau à l'issue de cette élection. Au cours d'un vote à candidature unique à tous les 6 postes sur les 7 que compte la chambre basse du Parlement, la coalition FCCK a remporté tous ses postes du bureau définitif. Seul le poste du rapporteur adjoint réservé à l'opposition est resté vacant. Dans son discours, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale place parmi ses priorités notamment les contrôles parlementaires. Dialogue entre Congolais revient ce soir avec les analystes sur cette question. Et donc nous avons dans cette émission Maître Hervé Diakiesse, il est porte-parole du mouvement citoyen Congolais Debout et membre de la société civile. Bonsoir Maître Hervé Diakiesse.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
Israël Moutala, il est journaliste, il est aussi analyste politique et économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir tout le monde.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Mudimbi.
Bonsoir monsieur Guy Maté, bonsoir aussi à monsieur Hervé et à monsieur Moutala.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Investiture hier mercredi du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jeannine Mabunda a été plébiscitée par la majorité absolue des députés comme présidente de l'Assemblée nationale. Au cours d'un vote à candidature unique à tous les 6 postes sur 7 que compte la Chambre basse du Parlement, la coalition FCCK a remporté tous ses postes du bureau définitif. C'est le poste du rapporteur adjoint réservé à l'opposition est resté vacant. Les détails avec Michel Kifinangoi.
Jeannine Mabunda Lyoko Mudiay du PPRD est désormais président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Candidate unique à ce poste, Jeannine Mabunda vient d'être plébiscitée par la majorité absolue des députés présents au moment du vote. Elle est secondée par Jean-Marc Kabund de l'UDPS, premier vice-président, et Boniface Balamagué de AAB au poste de deuxième vice-président. Célestin Moussao Kalombo est désormais rapporteur de l'Assemblée nationale, alors que le poste des rapporteurs adjoints réservés à l'opposition reste vacant. Au poste des questeurs, Madame Alphani Marie-Claire de l'AFDCA, candidate unique, vient aussi d'être plébiscitée par la majorité des députés présents. Elle sera secondée par Innocent Ognon de AABC au poste des rapporteurs adjoints. Il faut noter que sur les 500 députés que compte l'Assemblée nationale, plus de 370 ont pris part au vote. En effet, mécontent du seul poste des rapporteurs adjoint qui leur a été réservé alors qu'ils revendiquaient 2 postes sur les 7, les opposants ont décidé de n'occuper aucun poste tant au bureau définitif que dans les commissions permanentes et sous-commissions.
Merci à vous Michel Kifindangoy, Hervé Diakiesse. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement citoyen Congolais Debout et vous êtes aussi membre de la société civile. Enfin, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été investi depuis ce mercredi. Il est composé jusque-là de 6 membres. Et comment vous analysez l'élection de ce bureau définitif?
Je dois dire que cette élection, et j'ai du mal à utiliser le terme élection, a laissé une impression de grand malaise. Autant par les péripéties qui ont précédé son organisation. Étymologiquement, lorsque nous parlons d'élection, c'est qu'on opère un choix. Un choix entre deux ou plusieurs personnes, deux ou plusieurs propositions. Or là, c'était un bloc monolithique qu'il fallait plébisciter. Et c'est assez inquiétant lorsqu'il s'agit d'un temple de la démocratie. Donc là où les voix contradictoires sont appelées à tout moment à débattre, à donner des points de vue, on se retrouve avec une logique de contrainte de toute opinion dissidente. On a vu l'éviction d'Andari Thomas Lokondo et surtout on a assisté au refus de permettre à l'opposition d'avoir un quota qui lui permettait rationnellement d'accéder au moins aux 2 sièges qui pouvaient lui être échus numériquement. L'impression que ça nous donne, c'est que nous entrons dans une logique que nous avions refusée, celle de la caporalisation de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale, parce qu'on le sait tous qu'une Assemblée nationale, un Parlement, a 2 missions. La première, la plus naturelle, c'est celle de légiférer. Mais la seconde, et celle qui malheureusement n'a jamais pu aboutir jusque-là, c'est celle du contrôle parlementaire. Or, l'une des causes de l'absence d'un contrôle efficace ou d'un contrôle effectif de l'Assemblée nationale, qui a été sa caractéristique majeure et qui a valu les rejets du système de la législature antérieure, c'était son incapacité à cause de sa caporalisation, à cause de son allégeance quasi aveugle au système de prédation qui a caractérisé notamment les régimes passés, à telle enseigne que même une interpellation ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette logique, la même instauration des motions incidentielles qui empêchent tout exercice d'une motion de contrôle, des défiances ou même d'une motion de censure. Et vraiment, nous sommes assez inquiets. Ce n'est pas un signal apaisant qui vient d'être lancé.
C'est un vote à candidature unique à tous les 6 postes. Et on a même l'impression que les résultats étaient connus d'avance parce qu'il n'y avait pas des concurrents. Et vous avez parlé d'une élection qui a laissé une impression de grand malaise. Et vous avez même du mal à qualifier cela d'élection. Est-ce qu'on peut parler d'une élection ou d'un plébiscite, comme le disent certaines personnes?
C'est un plébiscite, c'est même carrément un congrès cash FCC. C'est simplement un choix qui vous a été... Ce n'est même pas un choix, c'est des individus qui vous ont été présentés, vous devez les entériner.
Et donc les députés nationaux étaient devenus un fait accompli?
Ils étaient partie prenante du fait accompli, puisqu'ils n'ont pas opéré un choix. C'était lorsque nous parlons d'un choix... On a une alternative. On a au moins la possibilité de dire non. Ils n'ont pas pu la dire, ils n'ont pas pu exercer cette possibilité. Henri Thomas Lokondo, qui aurait été une sorte de possibilité d'opérer un choix, a été évincé d'une manière assez cavalière pour un député d'une organisation qui veut être la majoritaire au sein de l'Assemblée.
Maître Hervé Diakessé, le caractère monolithique de ces bureaux ne pourra pas déterminer finalement la nature du travail que ces bureaux pourra produire. En d'autres termes, les dossiers qui pourraient être pris en compte, n'est-ce pas, des dossiers qui pourraient être seulement en faveur, n'est-ce pas, de cette coalition FCC-CACH?
C'est une crainte, et j'espère que non, parce qu'alors ça va exacerber les désespoirs de la population qui, elle, a des exigences assez lourdes sur ce que doit être la mission parlementaire. Comme je vous ai dit là, les exercices antérieurs des législations passées ont échoué dans l'exercice justement du contrôle parlementaire. Là, nous avons un signal qui donne l'impression qu'un bloc a refusé tout débat à l'interne, a refusé l'émergence d'une opinion qui soit un tant soit peu différente, même si elle aurait été minoritaire. On aurait vu, un Thomas Lokondo qui est FCC, aurait échoué au moins au sein de cette majorité, mais au moins il aurait pu émettre une autre vision de l'exercice du contrôle parlementaire. En vidant cette élection de toute sa substance, de la possibilité d'opérer un choix, le signal qui a été envoyé, déjà, c'est qu'on ne veut pas un débat. Alors si on ne veut pas un débat dans un Parlement, comment il exercera son contrôle si les gens n'ont pas la possibilité d'agir de manière autonome? En tant que d'abord, ces députés ne sont pas des députés FCC. C'est ça l'erreur manifeste. Ils sont des députés issus des listes FCC, mais ce sont des députés nationaux. Et un mandat des députés nationaux n'est pas impératif. C'est-à-dire qu'il n'est pas astreint à être caporalisé ou contraint de voter dans un sens. La preuve en est que la Constitution ne prévoit aucune sanction pour un député qui ne vote pas dans les sens caporalisants. Mais c'est plutôt quand il quitte délibérément son camp que là, il peut être sanctionné. Mais s'il ne quitte pas son camp et il vote de manière autonome, même en les chassant du parti, il garde son mandat. C'était ça la volonté du constituant, c'était ça la volonté du législateur qui est en train d'être perverti et caricaturé. Et là, il est dangereux.
Alors, le comportement affiché par la coalition FCC-CACH est considéré par certaines personnes comme étant un comportement plutôt anti-démocratique. Alors, comment vous expliquez que, par rapport à cette situation, le CACH, n'est-ce pas, qui a lutté, donc l'UDPS qui a lutté pendant longtemps pour la promotion de la démocratie, puisse rester silencieuse face à cette situation.
Je veux bien croire que ça procède de stratégie politique ou politicienne, ce qui se retrouve peut-être à d'autres enjeux, notamment l'enjeu de constitution du gouvernement, donc qui exige pour le moment que on puisse apaiser de part et d'autre dans les cadres de leurs ententes et de leurs négociations, les craintes de tout le monde. Mais en ce qui nous concerne, société civile, population congolaise, qui voulions une législature qui soit différente des législatures antérieures, déjà au moment de l'élaboration du règlement intérieur, il y avait deux dispositions qui sont passées et qui n'auraient plus jamais dû passer. La première, c'est celle qui a reconduit les motions incidentielles. La motion incidentielle, c'est vraiment le droit de veto contre tout contrôle parlementaire. Et d'ailleurs, Ramazani Shadary en était le spécialiste, et pour empêcher l'exercice du contrôle parlementaire.
Mais ils ont dit que la motion incidentielle, c'est vrai qu'ils l'ont reconduit, mais ils feront tout pour que cette motion ne puisse plus bloquer, n'est-ce pas, les processus de contrôle.
Mais dans ce cas, il fallait juste l'élaguer. Pourquoi la maintenir tout en disant qu'elle ne servira plus à ce à quoi elle a servi? Au moins, l'expérience passée a démontré qu'elle a servi pour bloquer les contrôles. La deuxième chose aussi qu'ils ont laissé passer et qui était dangereuse, c'est le fait que tout membre du bureau aurait dû cesser toute fonction active des dirigeants dans le parti politique ou dans la plateforme politique à laquelle il appartient. Or, cette disposition a été maintenue. La neutralité qui doit prévaloir lorsqu'on siège au perchoir de l'Assemblée, c'est pour permettre que toutes les opinions, le président de l'Assemblée protège toutes les opinions, surtout les opinions minoritaires au sein de l'Assemblée. Lorsqu'il se comporte en chef d'une plateforme, eh bien, on a connu ce qu'avec Aubin Minaku, on a malheureusement connu, c'est que nous avons le chef d'une plateforme qui vient représenter les intérêts de son camp politique au sein de la représentation nationale.
Alors, c'est grave. L'opposition a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de l'élection du bureau élu. Est-ce que les dés ne sont pas jetés? Est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière?
Vous savez, en tant que juriste, j'ai été aussi étonné. Je ne connaissais pas, on apprend, hein, je ne connaissais pas cette sorte de voie de recours. Et donc, je suis très curieux et très intéressé à voir comment le Conseil d'État peut éventuellement siéger sur une élection de bureau d'assemblée. Donc, à ce niveau, je trouve que il faut toujours, dans un état de droit, au lieu de faire parler la rue, c'est toujours bien de saisir d'abord ceux qu'on croit être compétents en la matière, la justice.
Merci Isaël Moutala, journaliste, analyste politique et économique. Le bureau définitif est là depuis hier. Comment vous réagissez?
Bon, je réagis de la manière suivante. Le bureau a commencé par une fausse note. Écoutez, il est toujours bon pour un bureau comme celui-là que le vote puisse refléter la pluralité de courants politiques qui sont représentés au sein de l'Assemblée nationale. Il n'a échappé à personne que cette élection a été boycottée, boudée par l'opposition dans sa très large majorité, à part quelques individus. Donc cela, déjà, c'était une fausse note. Voilà. Il aurait fallu absolument que ce bureau passe par le feu de la confrontation, passe par le feu de du choc de l'autre camp ou du choc d'une opinion dissidente de leur propre famille qui était incarnée par Henri Thomas Lokondo. Donc cette majorité, c'est vrai, a fait passer aujourd'hui le ticket Mabunda Kabound et tous les autres membres. Mais ce sont des fausses certitudes. Si c'était des vraies certitudes politiques en termes de rapport de force, on n'aurait pas. Le FCC et le CASH ne se seraient pas donné autant de peine pour éliminer la candidature de Henri Thomas Lokondo.
Vous voulez dire quoi?
Écoutez, si vous êtes sûr de votre majorité, si vous êtes sûr de vos convictions politiques, il faut battre Henri Thomas Lokondo dans les urnes. D'ailleurs, ça aurait été un test intéressant sur la loyauté, sur la profondeur de vos convictions. Mais empêcher à ce que un de vos membres puisse concourir contre votre candidat désigné, pour moi, c'est une peur qui cache que vous ne contrôlez pas suffisamment votre majorité, vous n'avez pas suffisamment confiance à votre majorité. Voilà pourquoi j'appelle
c'est une majorité qui ne serait pas soudée, elle serait volatile.
En tout cas, pourquoi ? C'était le premier test de vérité. On n'avait pas d'informateur, on n'a pas eu d'informateur, donc on pouvait justement, à l'occasion de cette élection, voir un peu le rapport de force au sein de l'hémicycle. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, la majorité parlementaire aussi se confirme par ce vote, par ce plébiscite, parce qu'on sait maintenant aujourd'hui désormais qu'à peu près 380 députés constituent la majorité parlementaire, et ce sont deux blocs, le FCC, deux plateformes politiques, le FCC et le CASH, qui vont constituer cette majorité parlementaire-là. Donc c'est une leçon politique qu'on a tirée. Mais l'autre leçon politique qu'on a tirée, c'est qu'on pouvait justement démarrer cette troisième législature sans cette crise. Les opposants sont allés au Conseil d'État pour contester la décision du bureau politique, parce que le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le président de ce bureau avait dit ceci, que la candidature de Thomas Lokondo est réglementaire mais n'est pas retenue pour des raisons politiques. On n'a pas compris cette déclaration-là, c'était le fou. C'est cette décision-là qui a fait passer aux voix, alors que les candidatures étaient déjà retenues, à faire passer aux voix les candidatures retenues, qu'on a élagué la candidature de Lokondo, c'est cette décision-là-bas qu'on est allé contester devant les conseils d'État. Les opposants ont qualifié disant que la décision du bureau provisoire de l'Assemblée nationale est une décision administrative et donc susceptible de recours devant le Conseil d'État.
Et cette démarche de l'Assemblée, plutôt de l'opposition, pourrait-elle aboutir à quoi ?
En tout cas, d'abord, est-ce que ça sera recevable ? Est-ce que le Conseil d'État va considérer que la décision... parce que quand même l'Assemblée nationale, c'est quand même une institution politique. Est-ce que la décision du bureau provisoire a-t-elle un caractère administratif pour être contestée devant le Conseil d'État? Je n'en sais rien, donc je laisse cette question aux experts en droit administratif. Mais il y avait aussi une autre voie de recours. Ça veut dire que le président de la République avait donné rendez-vous aux députés de l'opposition pour essayer d'arbitrer cette question-là. Et donc, moi, j'ai trouvé aussi que c'était malheureux que le président de la République ne les ait pas finalement rencontrés parce qu'il était en audience avec l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Donc, il aurait fallu pour moi que le chef de l'État puisse trouver du temps pour écouter les doléances des députés qu'il avait invités d'ailleurs, et puis leur dire qu'il va s'investir et peser de tout son poids pour régler cette question. Finalement, de quoi il y avait deux problèmes justement qui ont divisé la majorité parlementaire actuelle et l'opposition. C'était la question, c'est la question d'abord de
la validation du mandat des députés nouvellement élus.
Ouais, c'est de Beni Utembo et ensuite et la conséquence qui en découlait qui était
de poste.
Voilà. Je pense que c'était jouable dans le camp présidentiel. C'était jouable de dire donc dans un élan de réconciliation, dans un élan de voilà, on peut leur donner ces deux postes-là et on se serait passé de cette crise.
Israël Moutala, le FCC note que cette élection et l'installation des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement illustre le dynamisme de notre démocratie et confirme la volonté du FCC et de son partenaire CASH de consolider leur coalition. Et même si CASH n'a pas protesté officiellement, le fait qu'il obtienne de la part de son allié un seul poste sur les 6, vous pensez que cela l'arrange?
Bon, au moins, il y a encore une autre vérité politique. Ça veut dire que là, on sait actuellement, maintenant, tout est clair, qu'il y a une coalition, il y a un accord politique, il y a une coalition entre le FCC et CASH. On ne peut plus le dénier.
Kaboul, une coalition dans laquelle, n'est-ce pas, la répartition n'est pas toujours équitable.
Non, la question, ça veut dire que c'est une question d'abord de rapport de force. Vous avez le CASH qui a une quarantaine de députés face à une cinquantaine de députés, et vous avez le FCC, la plateforme qui a plus de 300 députés. Et donc, Kabound, quand même, par rapport à ça, il est quand même premier vice-président. Donc le poste qu'on lui a donné, c'est un poste éminent. Au moins, là, on est d'accord que c'est le premier acte fort de cette alliance, de cette coalition politique FCC-CACH avec l'élection de Kabound comme vice-président. Parce que sans les voix du FCC, Kabound ne serait jamais devenu premier vice-président. Voilà. C'est le premier acte politique fort de l'alliance, de la coalition entre le FCC et CACH. Donc personne ne peut nier. Mais maintenant, il faudrait que cette alliance, cet accord soit dévoilé. Nous sommes en démocratie. Il ne faudrait pas qu'il y ait des accords qui échappent à l'opinion. Il faut, parce que c'est pour l'intérêt public, il faut les mettre sur la place publique pour que l'on sache qui a pris quel engagement, dans quel sens, pour combien de temps.
Merci, professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Au-delà de tous les débats, n'est-ce pas, autour de la mise en place de ces bureaux définitifs, la particularité de ces bureaux est le fait que, à sa tête, il y a une femme et une certaine opinion pense que c'est une avancée, n'est-ce pas, dans la promotion des droits de la femme.
Bien, merci beaucoup, M. Guimaté, pour la question que vous venez de poser. Avant d'en arriver là, moi, je voudrais faire remarquer que la RDC s'inscrit dans la ligne droite de la démocratie libérale ou la démocratie occidentale. Mais au niveau de candidature, nous avons assisté aux candidatures uniques qui relèvent pratiquement de la démocratie populaire ou marxiste. Ce qui est déjà ici une contradiction par rapport à la démocratie qui est d'application ici en RDC. Et la conséquence, c'est que la plupart des élus atteignent des pourcentages au-delà de 90%. Et parfois, on atteint même les 100%, mais par euphémisme, on veut seulement réduire à 99,99%. Alors, de quoi est-il question dans ce cas-ci? Tous les élus se sentent beaucoup plus redevables à leur regroupement politique plutôt qu'au peuple. Parce que ce sont les regroupements politiques qui ont fait que nous puissions avoir des candidatures uniques. Et c'est là pratiquement que je développe une crainte de voir l'histoire se répéter. C'est que les députés, comme aussi les bureaux, ne vont pas nécessairement travailler dans le sens de la satisfaction des besoins de la population, mais va travailler dans le sens de la satisfaction des besoins des partis politiques ou de leurs regroupements. Or, tous les besoins, les intérêts des partis politiques, comme aussi les intérêts des regroupements politiques, ne sont pas nécessairement les besoins de la population. Alors, revenant à la question que vous avez posée sur le fait qu'on a constaté à la tête de l'Assemblée le genre, donc une femme à la tête de cette Assemblée, c'est bien parce qu'il y a longtemps qu'on a parlé de la parité, l'égalité entre hommes et femmes, et c'est bien beau, mais il faudrait que nous puissions miser sur des personnes réellement compétentes. Parce que pour moi, personnellement, je n'ai jamais été de ceux-là qui pensent qu'on doit promouvoir les femmes par snobisme, parce que ça s'est fait ailleurs, mais nous devons tabler sur des femmes qui ont réellement la compétence. Si celle qui a été élue à la compétence et mieux placée pour travailler dans l'intérêt de la satisfaction des intérêts de la population, ok, coup de chapeau. Mais si elle a été désignée tout simplement dans le but de préserver les intérêts de telle ou telle autre classe politique, et là je dis que nous sommes très mal partis.
Voilà, professeur, vous avez évoqué les devoirs des redevabilités. Vous dites que les personnes qui ont été élues dans ces bureaux se sentent beaucoup plus redevables vis-à-vis de leur regroupement politique que de la population. Cela veut dire que on ne peut pas espérer, n'est-ce pas, assister à une rupture avec les passés, avec ces bureaux.
Bon, d'abord, nous ne devons pas oublier toutes les conditions ayant conduit à l'élection de députés que nous avons. Et une large opinion affirme sans ambages que
les députés que nous avons, s'il y en a, j'insiste très bien, s'il y en a qui ont été réellement élus, mais dans la plupart des cas, ce sont des députés qui ont été nommés. Alors, là on se sent nommé, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrangements au niveau des partis politiques qui ont cherché à faire prévaloir telle candidature plutôt que telle autre. Et il n'est un secret pour personne. Avant même que le bureau ne termine la compilation de voix exprimées, on a promulgué les résultats des élections. Donc, ce qui fait que, au niveau déjà des députés, il y en a certes qui doivent leur élection au peuple, mais il y en a aussi qui doivent leur élection à des combines partisanes. Alors, à ce moment-là, si on met en exergue beaucoup plus ces combines partisanes, c'est là que je me dis que nous risquons de vivre encore la situation de la mandature passée, que les députés puissent travailler beaucoup plus dans le sens du renforcement de leur position, de leurs intérêts partisans, plutôt que de travailler dans le sens de la satisfaction des besoins populaires.
Oui, professeur, l'absence de l'opposition dans ces bureaux et dans les différentes commissions et sous-commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne va pas, à certains points de vue, décrédibiliser le travail de cette chambre basse du Parlement.
Personnellement, je ne suis pas de cet avis-là, parce que d'ailleurs, le poste qui a été réservé à l'opposition, c'est le rapporteur adjoint. C'est-à-dire l'adjoint, quel est réellement son rôle? Il n'a de rôle évident qu'en cas d'empêchement ou d'absence du titulaire. Tant que le titulaire est là, l'adjoint joue le rôle de la figuration. Voilà ce qui a essayé un peu de frustrer le camp de l'opposition. Mais nous devons savoir que la République démocratique du Congo n'a pas inventé la démocratie. Nous sommes dans une démocratie pluraliste, c'est-à-dire une démocratie occidentale. Alors, dans cette démocratie, surtout quand nous nous fions à la démocratie à l'anglaise, dit que le camp majoritaire ne doit pas utiliser sa position de force pour étouffer la minorité ou lui enlever les moyens de se prononcer. Donc, je pense que, étant donné que nous n'avons pas encore davantage mûri la démocratie ici chez nous, le mieux à faire, c'est la consociationnalité. C'est-à-dire que ne pas utiliser le sectarisme, exclure à tout prix la minorité. Mais ce qui est évident, c'est qu'on doit entretenir cette minorité-là, l'encadrer, on doit l'écouter pour qu'elle arrive aussi à exprimer son point de vue.
Merci, professeur.
On dit toujours du choc d'idées, gagne la lumière.
Merci.
Donc, il faut éviter d'étouffer la minorité, mais tenir compte aussi de ses voies d'expression.
Merci, Maître Hervé Diakiesse. Nous allons écouter pour vous cette réflexion qui vient de Isangi.
L'organisation de ces élections à la Chambre basse du Parlement n'est rien autre qu'une distraction créée par la coalition KHRCC. C'est une grande honte pour le pays. Moi, je ne sais pas s'il faut l'appeler élection ou nomination comme d'habitude ces derniers temps au Congo. À mon avis, si la structure KHRCC n'est pas détruite, même la primature posera problème. Que l'opposition reste là, en train d'observer sans rien dire, au risque de se mêler dans ces plats diaboliques pour détruire la vie de milliers de Congolais au profit des intérêts égoïstes. Je salue tant bien que mal la présence la plus remarquée de la femme à l'entête de l'Assemblée nationale.
Maître Hervé Diakiesse.
Écoutez, ce que votre auditeur dit reflète effectivement le point de vue d'une grande partie de la population qui observe ce qui se passe avec beaucoup de crainte. Hein. On doit le dire depuis les élections des sénateurs, hein, et la défiance manifeste sur l'instrumentalisation des députés est devenue quelque chose qui laisse craindre une implosion. Vous savez, vous l'avez relevé tout à l'heure, là, et je crois le professeur
Moudimbi
aussi a insisté sur la question de redevabilité. Il est important, il est vraiment important que nous comprenions ce qu'est un député national. La première chose, c'est qu'un député national, lorsqu'il est issu d'une circonscription, il n'est plus seulement les députés de ceux qui l'ont élu. Il est les députés qui représentent l'ensemble de la circonscription. Donc si c'est un député de Lukunga, un député de Matadi, il est les députés de tous les Matadiens. Et la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, c'est que les députés est un député national. Donc il n'intervient pas que sur les questions de Matadi ou de la Lukunga. Il intervient sur des questions d'intérêt national qui concernent l'ensemble du territoire national. Et la troisième chose qui en découle, c'est que de ces faits, les partis politiques, si importants soient-ils, sont des faits privés. Or, un député est un représentant d'une institution qui est l'Assemblée nationale. Et il représente le peuple. Et de ce fait, c'est pourquoi il est revêtu d'immunité. Il a des immunités contre des poursuites qui peuvent être exercées contre lui, mais aussi des immunités qui concernent les opinions et votes qu'il peut émettre dans l'exercice de ses fonctions. Donc, un parti fait privé n'a aucune prise, aucune emprise, aucune injonction à donner à un député, sous peine lui-même de tordre la démocratie.
Malheureusement, on risque d'assister à cela.
Nous sommes en train d'assister à cela. Et nous assistons à une caricature de la démocratie. On est en train de tordre et de vider de tout son sens le rôle d'un député. C'est pourquoi il est très important de rappeler, encore une fois, ce que la Constitution a voulu entendre par un député, une personne que nous, peuple, déléguons pour qu'il exerce un pouvoir de faire des bonnes lois et de contrôler l'exécutif. Nous n'avons pas délégué un individu pour être à la solde ou un mercenaire d'un parti politique. Aujourd'hui, le rôle du député devient un rôle totalement vidé de sa substance. De groupes privés, des factions sont en train de prendre en otage des institutions à travers des élus. Et ça, c'est très dangereux. Quand on dit que le mandat impératif est nul, ça veut dire quoi ? Un député, une fois élu, ne peut plus subir des injonctions, des orientations ou même des dictats sur la manière dont il doit voter. C'est ça les caractères impératifs. Ces caractères-là n'existent plus. Il est là pour nous tous. Donc même quand c'est un député issu FCC, s'il est de ma circonscription, c'est mon député. Et si je suis du Katanga ou du Congo central, je rencontre un député de Mbandaka, c'est toujours mon député parce qu'il parle des questions d'intérêt national. Un parti politique, peu importe son implantation, intervient toujours pour des intérêts partisans. C'est ça dans sa nature, c'est dans son essence. Donc on ne peut plus accepter que de factions, de groupes d'effets privés puissent aujourd'hui prendre en otage des institutions.
Merci. Israël Moutala, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Kasumbalesa.
Harvey Kabuya Wamukendi, depuis Kasumbalesa, la ville frontalière. Nous félicitons le membre élu du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, nous sommes déçus par la procédure à candidature unique. Nous aimerions assister à un vrai jeu démocratique. Nous sommes inquiets sur le fait que ce bureau soit incomplet par le refus de l'opposition d'y prendre part. Avec l'égoïsme que la majorité est en train de nous faire voir, nous craignons que certains membres de l'opposition soient avec le temps attirés par le privilège que renferme ce poste et qu'ils arrivent à régner le sien, comme nous l'avions assisté déjà avec M. Bruno Tshibala, pour ne citer que celui-ci. Il serait mieux, à mon avis, que la majorité revienne à la raison, qu'elle cesse d'être égoïste en voulant tout avoir, et qu'elle se remette à la table des négociations avec leurs collègues de l'opposition pour le bien-être de la population qu'ils ne cessent de chanter, de défendre.
Israël Moutala.
Oui. Merci Hervé Kabuya, mais vous avez une conception vraiment idyllique de la politique. Mais la politique, on ne se fait pas de cadeaux. Je ne vois pas comment est-ce que l'opposition ou la majorité va revenir en arrière, se mettre autour d'une table. Non, je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Mais le problème, c'est qu'on pouvait justement économiser, faire l'économie de cette crise, de cette petite crise. Voilà. Il y a une autre chose que vous devez absolument intégrer, c'est que l'UDPS n'a plus le statut d'un parti d'opposition. Donc l'UDPS a le statut d'un maintenant de la majorité parlementaire. L'UDPS ne va plus critiquer, elle sera astreinte au devoir de réserve. Bref, quand vous acceptez de partager le pouvoir avec le FCC, vous avez une nouvelle attitude à adopter. Et donc là, il faudra s'y faire. Donc la contestation tous azimuts appartient au passé. Là, vous devez assumer un programme et défendre des thèses et tout ça. Le problème, c'est que, et je suis parfaitement d'accord avec ce que Maître Hervé Diakissé a dit tout à l'heure, c'est que le mandat, quand on dit que le mandat de député, il n'est pas impératif.
Non impératif, hein.
C'est parce que, justement, vous avez des consignes de votre parti politique. Voilà, voter pour tel, pour les intérêts du parti. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette orientation-là, ou cette suggestion de votre parti. On vous convoque, on vous dit voilà, dans l'intérêt, voilà, notre ticket et tout ça. Mais vous, en âme et conscience, voilà, parce que j'ai vu que hier, quand même, il y a des députés qui ont fait des bulletins, il y a eu des bulletins blancs.
Blanc.
C'était une forme de protestation, j'imagine, parce que le mot d'ordre, c'était de voter, tout le monde devait voter. Mais sur les 380 députés, tous n'ont pas voté. Et j'ai vu d'ailleurs que même au sein du FCC, il y a de problème. Parce que c'est Kabound qui a obtenu le plus grand nombre de bulletins blancs. Il y en avait une trentaine. Ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui ont trouvé que c'était quand même assez difficile, malgré que l'autorité morale a fait passer son mot d'ordre via Néhémie Mouilania, que voter pour le ticket, voter pour tous les candidats du FCC cash. Mais il y a des gens quand même, leur conseil a dit non, moi je vote pas Kabound, moi je vote pas Union. Et donc il y avait des bulletins blancs par-ci par-là. C'était une forme d'exprimer que le mandat qu'ils ont, c'était un mandat totalement libre et pas commandé. Donc ce ne sont pas des godillots qu'on actionne comme ça. Voilà. Ils ont une conscience, ils ont des idées, et tant que ces idées-là, pour eux, ne cadrent pas avec l'intérêt général, ils ont le droit d'émettre un vote contestataire, un vote qui ne va pas dans le sens de leur famille politique.
Voilà. L'opposition qui a rejeté le poste de rapporteur adjoint qui lui a été proposé par la coalition FCC-CACH, et si cette opposition maintient sa logique, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'il faut combler, n'est-ce pas, les vides laissés par l'opposition. Il faut combler ces postes-là, il faut trouver quelqu'un.
Ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer toutes les leçons de ça, parce qu'il faut quand même que le bureau soit complet. Je pense qu'on va tirer les conséquences de ce fait-là, et je pense qu'il y aura une candidature dissidente de l'opposition qui sera admise, et on va avancer, parce que je ne vois pas aujourd'hui l'opposition dans sa posture actuelle se dédire. Et donc là, moi je pense qu'il y a quelques dissidences à l'opposition qui vont occuper ce poste-là avec la bénédiction de la nouvelle plateforme, méga plateforme Cash FCC, qui vont avaliser ce choix-là. Parce que même la candidature de l'opposition, pour qu'elle passe, il faut être voté par la majorité des députés qui sont dans la majorité parlementaire aujourd'hui constituée par le FCC le cash. Et donc, c'est l'opposition qui est le maître du jeu. Mais cette démocratie sera belle si vous laissez de l'espace à vos concurrents, et si vous ne les humiliez pas, si vous ne les écrasez pas, si vous ne vous servez pas d'eux comme un alibi. Merci. Mais vous respectez vos adversaires.
Professeur Mdimbi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Kolozi.
Tout le monde y voit à partir de Kolozi. On ne peut pas nuancer que ce qui s'est passé hier au Parlement s'agit d'une élection, mais de l'officialisation d'un engagement qu'ont signé les FCC et les CACH. Et où même les CACH a cédé presque la moitié des postes à l'FCC. Ainsi, je me demande si le changement prôné d'abord par les CACH ne connaîtra pas de souffrance à sa matérialisation, car je ne vois pas comment les seuls candidats désignés CACH tenir face lui seul dans la délibération de certains dossiers qui nécessitent un vote collectif. Et du fait que le FCC est majoritaire au Parlement et même dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Oui, professeur Jeff Mouzimbi.
Ok, merci beaucoup. Je voudrais bien saluer l'analyse du compatriote de Kolozi. Effectivement, bon, il est en droit d'affirmer ce qu'il nous a présenté là-bas. Mais je dis qu'il ne faudrait pas être pessimiste pour comprendre que l'Assemblée ne peut pas travailler dans le sens, ne peut pas quand même bien jouer son rôle. En effet, le plus important ici, c'est l'impulsion qu'il faudrait donner à ces députés-là. Ici, je pense que le président de la République a un rôle primordial aussi à jouer pour éviter de revivre encore l'histoire malheureuse. Bon, je prends un exemple. Vous voyez, la police congolaise, à titre d'exemple seulement, a été décriée, qu'elle ne protège pas correctement la population, etc., etc. Mais si le président de la République voudrait redonner une autre impulsion, on ne va pas changer tous les policiers pour recruter de nouvelles têtes. Mais on va travailler avec les mêmes policiers, mais quitte à leur donner une nouvelle impulsion. Et c'est là que je dis, bon, c'est vrai, il faudrait aussi qu'il y ait cette impulsion-là, qu'on donne, qu'on socialise les députés, qu'ils comprennent que le temps de la préservation des mots d'ordre du parti ou du regroupement est déjà dévolu. Il faudrait que les députés arrivent à comprendre, à interroger qui sommes-nous réellement, quel est le travail que le peuple attend de nous. C'est pourquoi, ici, j'insiste sur le fait que, déjà à partir du choix de ces députés-là, il y a des problèmes. Les députés qui se sentent redevables réellement de la population, nous les verrons. Ils vont parler au nom du peuple. Mais ceux-là qui doivent leur poste à un arrangement au niveau du parti, on les verra aussi. Ils vont travailler, ils vont parler dans le sens de respecter le mot d'ordre.
Professeur.
Et ici, il faudrait reconnaître que le mot d'ordre, le principe du respect des mots d'ordre n'a pas conduit ce pays-ci donc à un bel avenir ou à des résultats dont on attendait.
Alors, il y a beaucoup d'attentes de la part de l'opinion publique sur notamment les contrôles parlementaires. Quand vous voyez la configuration de ces bureaux, vous pensez que ces rôles pourraient être joués comme il se doit?
Et c'est à ce niveau-là qu'on peut développer du pessimisme. Parce qu'il est vrai que le système ou le régime politique en vigueur ici en RDC est tel que le Premier ministre doit être issu de la majorité au Parlement. Alors, cette majorité est au regard de la philosophie qui anime déjà les députés dans le choix du bureau définitif, est tel que lorsque le Premier ministre sera désigné, le Premier ministre d'ailleurs sera désigné de cette majorité, de cette majorité, à partir de cette majorité-là, et au moment des interpellations, c'est là que ça va aussi se poser, le problème va se poser. On va chercher à vouloir amadouer le gouvernement, à travailler dans le sens de sa consolidation, même si ce gouvernement ici ne travaille pas dans l'intérêt
Merci, professeur. Merci, professeur.
Alors, c'est tout le problème.
Alors, et comment nous allons plutôt conclure. Et comment vous entrevoyez le travail de cette chambre basse du Parlement après la mise en place de ces bureaux définitifs?
Bon, laissez-moi dire que il faudrait qu'il y ait un travail de socialisation des députés. Et j'ai comme l'impression que beaucoup le sont devenus
Merci.
Sans avoir réellement le rôle que l'on attend d'eux.
Merci. Merci. Il faut un travail de socialisation des députés. Ce que nous avons retenu de vous, professeur Jeff Moudimbi, Hervé Diakessé, comment vous entrevoyez le travail de cette Assemblée nationale après la mise en place de ces bureaux définitifs? Ça sera votre conclusion.
Je crois que on n'a pas à désespérer, ok? Évidemment, on pense qu'il y avait le coup près aussi des contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle et qui a pu être utilisé comme fouet ou épée de Damoclès pour obliger certains députés à marcher au pas. Bientôt, on va connaître la liste définitive des députés nationaux. Mais une chose est certaine, en plein contexte de monolithisme du parti État, le MPR, on a connu 13 parlementaires qui ont été suffisamment courageux, même pour faire des lettres ouvertes, qui ont fait chanceler la dictature de Mobutu, l'obligeant à ouvrir certaines
brèches. Et donc, il faut espérer.
Il faut espérer.
Israël Moutala, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que le taux de retour des députés à l'hémicycle, c'est 15%. Donc, ça devait amener beaucoup à penser que s'ils ne font pas correctement leur travail, on s'en chargera en 2023.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Bassunga qui était à la technique, à Duna Madimba et Kélin Kouté qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.